La Bible en 24 heures, 24 sessions, on arrive à la moitié ce soir, session 12, avec les petits prophètes. Avec les petits prophètes, on va terminer l'Ancien Testament. Donc les petits prophètes, c'est les pages... souvent les moins lus dans nos Bibles. Donc à la 12e session, on parle de 12 prophètes. On les appelle les petits prophètes, en anglais the minor prophets, pas parce que leur message n'est pas important, pas aussi important que les grands, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Non, c'est simplement parce que Saint Augustin, en raison de la brièveté relative de leurs écrits par rapport aux autres, les a appelés ainsi, les petits prophètes. Ils sont donc 12 prophètes, 12 comme les apôtres, 12 comme les tribus d'Israël, qui s'échelonnent sur une période qui va de la fin de la monarchie jusqu'à la période de 400 ans avant Jésus-Christ. Vous savez qu'entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, il va y avoir une période de silence de près de 400 ans qui va être rompue lorsque Dieu va faire envoyer un ange qui va parler à un certain Zacharie. Mais ça, on verra ça dans Matthieu. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Cet ordre des livres, en fait, n'est pas un ordre chronologique, ni un ordre très logique non plus, mais c'est l'ordre dans lequel nous avons recueilli ces prophètes qui étaient déjà dans l'Ancien Testament hébreu, dans cet ordre-là. Alors vous vous souvenez un peu le contexte, il y avait le royaume du nord et le royaume du sud, après la division du royaume à la fin de la vie de Salomon, entre Roboam et Réoboam. Il y avait donc le royaume du nord, dont la capitale était Samarie, oui, et le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Souvent... En fait, dans le royaume du sud, il y avait combien de tribus ? Deux. Lesquelles ? Très bien. Judas, on connaît, mais Benjamin, on oublie souvent. Dans le royaume du nord, il y en avait 10 autres. Et souvent, dans les prophètes, on représente le royaume du nord par une seule tribu. Vous vous souvenez de son nom ? Éphraïm. On parle d'Éphraïm pour désigner des fois l'ensemble des 10 tribus du Nord. Alors, il faut essayer de voir un peu quelle était la relation de ces prophètes, d'où ils venaient et à qui ils s'adressaient leurs prophéties. D'abord, Osée, un prophète pour le royaume du Nord pendant le règne de Jéroboam II. Il y avait ensuite... Joël, lui, il était du royaume du sud. La plupart, en fait, étaient du royaume de Juda. Dans le nord, il y avait essentiellement Amos et Osée, qui prophétisaient ils annonçaient, en fait, l'arrivée de l'Assyrie qui allait emmener en déportation le royaume du Nord. Et Amos et Osée essayaient d'avertir le peuple. Ensuite, Osée, Joël, Amos, il y avait Abdias. Alors lui, il est moins facile à reconnaître en anglais. En anglais, c'est Obadiah, qui est connu parce que c'est un livre à un seul chapitre dans toute la Bible. Il y en a 4 autres comme ça. Lui, il a prophétisé contre Édom, l'ennemi de Juda. Il était donc du royaume de Juda. Un autre qui le suit est mieux connu, Jonas, ou Jonah en anglais. Lui, vous vous souvenez que Dieu l'avait envoyé prophétiser, où ça? À Ninive. Ninive, c'était quoi? C'était la capitale de quel empire? L'empire assyrien, la Syrie, oui. Et Ninive, c'était une très grande ville, on en reparlera, c'était une ville en plein essor. Au temps de Jéroboam II. Mais Jonas, on l'appelle des fois le prophète malgré lui, parce qu'en fait, il n'avait pas envie d'aller susciter la repentance à Ninive, car il croyait aux prophéties, c'était un patriote, et il y avait des prophéties indiquant que Ninive allait détruire le royaume du nord, de Samarie. On va en reparler plus tard. Ensuite, Michée, en anglais Micah. Lui, il était contemporain d'Ésaïe, à l'époque du roi Ahaz. Donc c'est assez en l'an 750 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a un autre prophète qui va prophétiser contre Ninive, 100 ans, 150 ans après Jonas. Et lui s'appelle Nahum. Et on sait que la Syrie va en fait tomber sous l'autorité de Babylone. On en a parlé dans la succession des royaumes. Un autre qu'on connaît un peu mieux des fois, c'est Habacuc. Lui, il était du royaume du sud, et il était entre Jérémie, le prophète Jérémie, et Abdias. Il se posait des questions sur la justice de Dieu, comme des fois les hommes ont tendance à s'en poser. Pourquoi est-ce que Dieu utilise des gens cruels pour discipliner son peuple, etc. Sophonie, en anglais Zephaniah. Lui, c'était assez tôt, juste après Ésaïe, dans le royaume du sud, à peu près à la fin du règne de Manassé. Et puis à la fin, il y a trois prophètes qui parlent après l'exil, après le retour d'exil, donc après la captivité à Babylone. Et on les appelle des prophètes post-exiliques ou post-exil. Il y avait Agée, en anglais Haggai, Zacharie, Zachariah, et l'italien Malachi. Non, en anglais Malachi, Malachi en français. Et donc là, on arrive à 12. On arrive au total 12. On va les reprendre en succession. Donc on va, si vous voulez prendre donc votre Bible, page 890 dans la Bible à Colombes, Osée. Lui, son fardeau, ce qui lui pesait vraiment, c'était le fait que le royaume du Nord se détournait de Dieu et qu'il allait être puni par Dieu, par une déportation en exil par l'Assyrie. En quelle année ça s'est produit, ça? En 721 avant Jésus-Christ. Et il a un rôle un peu semblable à celui de Jérémie pour le royaume du Sud, qui lui aussi, quelques années plus tard, allait mettre en garde Juda contre la déportation, contre la punition de Dieu. Malgré ces avertissements, Juda, donc le royaume du Sud, a été déporté par Babylone. On a vu que c'était en plusieurs étapes, mais la grande date à retenir, c'est quoi? 586 avant Jésus-Christ. Il y a quelques dates qu'il faut retenir comme ça. Marignan 1515, Israël 721, Juda 586. ça vous permet des fois de vous y retrouver un peu. Le nom de ce prophète, Osée, ça veut dire simplement « salut ». Et lorsque on le trouve précédé de l'initiale de l'Éternel, le Yahvé, Jéhovah, le Yeu ou le Yod, comme dans Josué qui a donné en grec Jésus, ça peut se traduire par l'Éternel sauve ou le salut de l'Éternel. Et donc le prophète Osée est catastrophé par l'attitude spirituelle du royaume du Nord, qu'il appelle Éphraïm. Le nom de la tribu est cité 36 fois comme pour représenter l'ensemble des 10 tribus du Nord. Il va donc exercer son ministère jusqu'à la prise de Samarie par le roi d'Assyrie en 721. Et Osée, son message, non seulement il le dit, mais il le vit. Et je crois que c'est aussi quelque chose que le Seigneur aimerait qu'on fasse tous. C'est pas seulement parler l'Évangile en parole, mais le vivre en action. Il est un témoin, il fait un peu de l'audiovisuel avant la lettre, on dirait aujourd'hui du multimédia. Mais Dieu lui demande une chose très difficile pour expliquer à Israël, donc le royaume du Nord et aussi le royaume du Sud par la même occasion, que son peuple est infidèle. Il demande à Osée, à ce prophète, d'aller épouser une prostituée. Verset 2 du chapitre 1, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vaut dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Donc la prostitution dans la Bible, c'est toujours un symbole d'infidélité, de distance avec Dieu, de vie dans le péché. Et ce prophète Osée, très obéissant, va chercher Gomer, cette femme qui va lui donner 3 enfants. 3 enfants qui vont avoir des noms significatifs. Le premier, ça va être un fils qui s'appelle Jisréel. Alors ça, c'est un peu plus loin qu'on voit ces noms. Voilà, ils sont là tout au début. Voilà, il y a Jisréel. Jisréel, c'est aussi le nom de la grande plaine qui sépare la Galilée de la Samarie. C'est la grande plaine où il y avait eu la bataille de Gédéon, et c'est aussi là que va se passer la bataille d'Armageddon. Et ce nom de Jisréel qu'il a donné à son premier fils, c'est à la fois un nom de condamnation et un nom d'espoir, parce que ça veut d'abord dire dispersé. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Israël, le royaume du Nord, va être dispersé, mais c'est aussi un message d'encouragement, parce que le même mot Jisréel, ça peut vouloir dire, c'est un homonyme en hébreu, ça peut vouloir dire qui sème, ou comme de la semence. Donc il y a à la fois le message de correction et le message d'espoir. Après la dispersion, il y aura quelque chose qui sera semé et qui viendra apporter du fruit. Ensuite, une fille née qui s'appelle Lo-Ruhama, qui veut dire celle dont on n'a pas compassion. Et ça, c'est pour dire un peu que Dieu n'a plus compassion d'Israël. Et puis, le dernier enfant s'appelle Lo-Amni, c'est un fils, verset 9. Et ça veut dire « celui qui n'est pas mon peuple ». Et donc, Dieu, en nommant ses enfants, montre bien qu'il se distance d'Israël, du royaume du Nord. Et donc, ça nous montre qu'en fait, l'Éternel est en procès contre son peuple. Il dit « Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Quel autre de sa figure les signes de ses prostitutions, de son sein les signes de ses adultères ?» Encore une fois, l'adultère, c'est L'idolâtrie, c'est l'infidélité à Dieu. Et Dieu prévient son peuple du châtiment qui le guette, mais en même temps, il l'invite à la repentance. Et ça, c'est toujours l'amour de Dieu. Donc ça se procède comme un procès. Il y a verset chapitre 4, il y a un procès de Dieu avec Israël qui explique comment la prostitution, comment il s'est égaré, comment il a sacrifié à des idoles. Et puis il y a un verdict. Et verset 15 du chapitre 5, il est dit « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. » Il y a donc cet espoir, cette assurance par le Seigneur qu'en fait le peuple va finalement revenir à Dieu, mais on sent en même temps le cœur de Dieu qui voudrait éviter la correction et les difficultés, mais qui promet à son peuple que son amour, lui, si son peuple est infidèle, lui va rester fidèle. Un verset clé, c'est le verset 14, chapitre 14, pardon. Décidément, j'ai pris de mauvaises notes. C'est le verset qui dit « Apportez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. » C'est-à-dire qu'encore une fois, Dieu supplie son peuple de revenir à lui et de retourner à Dieu. Voilà, prenez avec vous des paroles, et là dans la version c'est marqué entre parenthèses, de repentance, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Et plus loin, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Et donc les promesses d'amour constant, fidèle de la part de Dieu. Il est intéressant, en fait, ces petits prophètes sont des passages qui éclairent beaucoup le Nouveau Testament, qui sont cités sans arrêt dans le Nouveau Testament. Et lorsque Dieu, au verset 1 du chapitre 11, dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte », c'est en fait ce qui est repris dans Matthieu, lorsque Joseph, Marie et l'enfant Jésus doivent partir sous la menace du roi Hérode, ils partent en Égypte. Donc il y a cette correspondance entre Osée, Jésus et le Messie. Osée et le Messie ont des ressemblances dans le texte, ou des allusions plus exactement. Donc la première section de ce prophète, les trois premiers chapitres, c'est la femme adultère et un mari fidèle. La deuxième section, chapitre 4 à 14, c'est la nation infidèle et un Dieu fidèle. Et malgré le message d'angoisse d'Osée, Il y a ces prophéties d'encouragement qui sont toujours là pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu. Alors bien sûr, ces prophéties sont directement adressées à Israël, il ne faut pas les détourner de leur contexte, mais en même temps, l'amour de Dieu pour Israël, c'est l'amour de Dieu pour son peuple en général. Et certaines de ces prophéties, c'est repris dans le Nouveau Testament. En fait, Israël, c'est tous ceux qui adorent Dieu. Il faut faire attention de ne pas mal interpréter lorsque la Bible parle d'Israël en tant qu'entité nationale, ne pas confondre avec tout le peuple de Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'appliquent à l'ensemble des enfants de Dieu en général. On va passer à Joël. Son nom, ça signifie l'Éternel est Dieu. Lui, J'ai dit qu'il était sous le règne, peut-être je ne l'ai pas dit, mais on a un peu du mal à le dater, parce que dans le texte, il n'est pas fait référence directement à des rois ou d'autres prophètes dont on connaisse la date exactement. Certains, Joël, le mettent plutôt comme l'un des derniers avant Malachi, mais il y a un flou qui règne quant à sa date exacte. Lui, il est connu pour parler de ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement de Dieu. Et c'est dans la Bible que j'ai, là, c'est le nom du chapitre 2, le jour de l'Éternel. C'est le jugement, le temps où Dieu va venir juger. Il y a des passages intéressants au tout début, lorsque il est dit qu'il y avait des attaques de sauterelles, il y avait des invasions de sauterelles, alors c'était un problème réel. J'ai moi-même eu l'occasion, quand j'habitais l'Afrique, dans au Tchad, et je me rappelle des vols de sauterelles qui arrivaient et on fermait toutes les fenêtres et tout était mangé. Et c'était un problème qui confrontait Israël à l'époque. Et il y a ce verset 4 qui parle de ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré, ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. En hébreu, c'est des mots, dans certaines traductions de la Bible, on emploie des translittérations des mots hébreux. Alors c'est le gazam, l'arbé, le yélek, le basil. Et on ne sait pas si ça représente la même sauterelle à différents stages de son évolution, de sa métamorphose, ou si c'est, comme la traduction qu'on a lue l'implique, différents types de sauterelles. Mais ça nous rappelle que on peut gâcher beaucoup d'opportunités, gâcher beaucoup de temps, que c'est une exhortation en fait à la repentance. Et le Seigneur peut racheter ce qui a été mangé par les sauterelles. Et ça, c'est un merveilleux message d'espoir, c'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais de condamnation définitive. Il est toujours prêt à nous donner une autre chance. On étudiera dimanche prochain Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il y a toujours cet appel à la deuxième chance. Et toujours la nouvelle, c'est que le jour de l'Éternel, ce jugement, ça va surprendre les peuples qui ne craignent pas Dieu, qui se moquent de lui. Mais il y a toujours, verset 32 du chapitre 2, il y a toujours la promesse, c'est plutôt chapitre 3, verset 5. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Ça, c'est un verset qu'on va retrouver dans Romains 10, 13. Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. C'est-à-dire que certains disent, oui, mais il faut être prédestiné, il faut être... Non, simplement si vous en avez envie et si vous invoquez le nom d'Éternel comme celui de votre Sauveur, alors vous pouvez avoir l'assurance d'être sauvé. Et on retrouve en fait on voit beaucoup des sources des auteurs du Nouveau Testament. Ils étaient imprégnés de la connaissance des prophètes de l'Ancien Testament. Leur attention n'était pas prise par d'autres distractions. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les ciné, ils vivaient dans la parole. Et lorsqu'il veut exprimer, tout de suite des paroles des prophètes viennent en tant qu'illustration de ce que Paul voulait exprimer, que le salut était offert à tous. Alors là, deux sections. Chapitre 1, c'est le jour de l'Éternel avec cette illustration des sauterelles qui sont comme une plaie qui mange tout. Et ça, c'était l'invasion qui allait venir sur Israël. Puis il y a la sécheresse dont il est question aussi. Ça, c'est comment Juda va être jugé. On sait que le jour de l'Éternel va arriver en surprenant. Ça, c'est dans la deuxième section, les chapitres 2 et 3. Et puis, l'aboutissement, ça va être la restauration d'Israël et de Juda. Alors, suivant les numérotations, il y a 3 chapitres ou il y en a 4. Des fois, je crois que dans la Bible anglaise, il n'y a que 3 chapitres. Mais c'est le même texte, arrêté à différents points. Amos. Alpes-Maritimes, œuvre sociale. Ça, c'était le nom de l'association créée par Christophe Alling pour venir en aide aux familles en difficulté. Mais c'était bien sûr nommé d'après ce prophète. Lui, c'était un porteur, son nom, ça signifie porteur de fardeau. Un verset intéressant au chapitre 3, verset 7. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Ça fait penser à certains qu'en fait rien de ce qui peut arriver d'important dans l'histoire de l'humanité n'est pas déjà été révélé quelque part d'une façon ou d'une autre dans les prophéties ou dans la Bible. C'est en tout cas un verset qui est un défi. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Il prophétise contre beaucoup de nations païennes, Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, et puis aussi contre Juda et Israël. Il y a 8 prophéties de jugement sur les nations dans les 2 premiers chapitres. Il va y avoir 5 visions parlant des futurs jugements dans les chapitres 7 à 9, et puis toujours une promesse de restauration d'Israël après le jugement. Lui, c'était contrairement à Ésaïe, par exemple, qui était un noble, on l'avait dit en étudiant les prophètes la semaine dernière. Lui, c'était pas un aristocrate, c'était un paysan. Il dit au roi, chapitre 7, verset 14, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. » C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait d'école, il n'avait pas de formation, il ne descendait pas d'une famille de hauts fonctionnaires, de prophètes. Il était bouvier, c'est-à-dire qu'il s'occupait des bœufs et il cultivait des sycomores, cultivait des arbres. Donc c'était un paysan, mais le Seigneur l'a utilisé. Et pour avertir encore une fois et pour promettre la restauration d'Israël, dernier verset du prophète, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits, je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Chaque fois, bien sûr, c'est bon d'ouvrir la parenthèse, les prophéties se réalisent en plusieurs étapes, bien souvent. Il y a une réalisation historique immédiate, il peut y avoir une réalisation historique plus lointaine, 100, 150 ans, 500 ans plus tard, et puis il y a toujours un accomplissement prophétique pour la fin des temps. Et d'imaginer que c'est des temps messianiques où Israël et le peuple de Dieu pourront habiter sur la terre avec un sol qui sera fertile, qui produira, il y aura la paix, il y aura des choses qui nous échappent aujourd'hui de toute évidence. Abdias, on a dit que lui c'était quelqu'un qui prophétisait contre Édom. Édom, c'était la nation qui descendait de qui ça? Les Édomites. Ésaü, hein, le frère jumeau de Jacob. Et eux se réjouissaient des malheurs qui arrivaient à Jérusalem et au royaume du Sud. Lorsqu'il est question dans de versets 3 et 4, alors, on a dit, on n'a pas besoin de préciser le chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Alors, suivant les versions, il est fait allusion, versets 3 et 4. Il est question du creux des rochers. Il y a d'autres passages qui évoquent ce qu'on appellera. 2 Rois 14:7 parle de Séla, le chef-lieu d'Édom, qui était devenu plus tard la ville qu'on appelle Petra, la capitale des Nabatéens. Et cette ville a été retrouvée plus exactement, seulement en 1812. Et vous avez sans doute vu des photos il y a des très beaux rochers de couleur rouge qui sont sculptés par des os, et derrière on voit un temple qui est creusé à même, et c'est là que on pense que c'était la capitale de Édom. Alors vous vous souvenez que Ésaü et Jacob ont commencé à se battre dans le ventre de leur maman, Rebecca, que Jacob a supplanté son frère qui était normalement l'aîné, qu'il a encore trompé en lui achetant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous vous souvenez aussi que Jacob a eu très peur de se faire prendre par Ésaü, mais Ésaü s'était calmé vis-à-vis de lui. Israël va donc être défait, ça c'est la première section, c'est les 16 premiers versets, à cause de Édom, Israël va être jugé, mais encore une fois, à partir du chapitre 17, c'est la revanche d'Israël qui va reprendre de dessus sur Édom. Sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés, verset 17, ils seront saints, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. On voit toujours cette alternance d'annonces de catastrophes qui pourraient être évitées si le peuple se repentait, mais toujours cette promesse de la faveur divine qui fait subsister un reste de son peuple. Alors le prophète Jonas, son nom signifie colombe, lui il était prêt à annoncer de bonnes nouvelles, annoncer la paix, mais surtout pas aller l'annoncer aux ennemis de son peuple. Et pourtant, c'est ce que Dieu lui demande. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors, vous connaissez l'histoire, j'imagine. Au lieu d'obéir à Dieu, Jonas essaye de partir aussi loin qu'il peut. Il prend un bateau, un navire qui allait à Tarsis. Alors certains pensent que peut-être c'était vers Tars, d'où vient l'apôtre Paul. D'autres pensent que c'était peut-être une ville même en Espagne. Mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'il allait en direction opposée de ce que Dieu lui demandait. Et vous vous souvenez l'histoire, sur ce bateau il y a une tempête. Et les marins réalisent qu'en fait que c'est à cause de lui, il l'avoue lui-même. Il lui demande d'où il vient, il lui dit qu'il est hébreu et qu'il craint l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Il savait qu'il leur avait expliqué qu'il partait loin de la face de Dieu parce qu'il était désobéissant. Il leur dit: « Bon ben, jetez-moi dans l'eau, c'est de ma faute, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens, apparemment des païens, décident donc de l'envoyer par-dessus bord. Mais avant, ils prient Ils invoquent l'Éternel en lui demandant de ne pas être chargé du sang innocent de cet homme, car toi, Éternel, tu as agi comme tu as voulu. Et il le balance à l'eau. Ils offrent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et puis il y a cette histoire du grand poisson qui engloutit Jonas. Il est bon de savoir qu'en fait le dieu de Ninive, c'était un dieu qu'on avait vu avec les Philistins, c'était le dieu Dagon. Dagon qui était un dieu poisson. Et donc il y a une petite ironie qu'en fait il se fait manger par un grand poisson. Certains pensent que peut-être il est mort et qu'il est ressuscité parce que Jésus a authentifié cette histoire en y faisant référence, en disant que de même que Jonas avait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, lui devait être 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et ce Jonas prit au fond du cœur des mers, au fond de la baleine, et il se retrouve vomi par ce poisson. On imagine qu'il ne devait pas avoir très bel aspect. Les sucs gastriques probablement avaient abîmé sa peau. On le sait parce qu'en fait, au XXe siècle, il y a eu quelqu'un qui a survécu à une mésaventure pareille. Et il y a eu des photos de cet homme dont la peau était complètement brûlée par les sucs gastriques. Alors bien sûr, les gens disent les baleines, elles ont des fanons, c'est pas possible, mais il n'est pas parlé de baleine, en fait, il est parlé d'un grand poisson. Et encore une fois, le plus grand miracle, c'est pas la baleine. Quel est le plus grand miracle? C'est qu'en fait, lorsqu'il va annoncer à Ninive qu'ils ont 40 jours avant la destruction, s'ils ne se repentent pas, c'est qu'il y a le plus grand réveil de l'histoire. Ninive, toute la ville se convertit à Dieu. On pense que c'était une ville de près de 100 millions de 1 million d'habitants, parce qu'au verset 11, au dernier verset, il est question de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et ça, on pense qu'il s'agit des enfants. On pourrait dire aussi que c'est peut-être les adultes, parce qu'on vit dans une société où les gens ne reconnaissent ni le bien ni le mal. Mais toujours est-il que c'est un grand miracle. Il y a une conversion, il y a un réveil à Ninive. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Jonas n'est pas du tout heureux. Il y a un petit épisode à la fin où Dieu fait grandir une Jonas boude, et Dieu fait pousser un ricin pour lui donner de l'ombre sur la tête. Et Dieu fait intervenir un ver qui fait sécher le ricin, et Dieu lui, et ça fâche Jonas parce que d'un seul coup il est plus abrité par du soleil, et Dieu lui fait remarquer: est-ce que tu préfères que j'aie pitié du ricin, ou tu préférerais qu'on ait sauvé le ricin, et tu te moques de tous ces gens qui viennent de venir à moi? Dieu lui dit: moi je pourrais ne pas avoir pitié de Ninive. Et ça montre aussi que le salut de Dieu, c'est vraiment pour tous les hommes. C'était la grande ville païenne, c'était la Syrie, et Dieu a pu susciter ce réveil. On le sait, ça va durer que 150 ans, mais c'est déjà formidable. Le prophète Michée, lui, ça veut dire, son nom, ça veut dire qui est semblable à l'Éternel. C'était un contemporain du prophète Ésaïe. Ils ont parlé à peu près à la même époque. Et lui a parlé de Samarie et de Jérusalem aussi. Il était issu d'une famille modeste. Il va être mentionné par d'autres prophètes comme Jérémie, 150 ans plus tard. Il a vécu en Judée sous les règnes des Achaz, Ahaz et Ézéchias. Et lui s'est adressé donc aux deux royaumes. Il dénonce le péché de ses compatriotes. Il annonce la punition divine. Et puis, il annonce encore une fois la restauration de la nation lorsque la discipline du châtiment aura été exercée. Quelques versets bien connus dans le prophète Michée. C'est d'abord le verset 5, chapitre 5, verset 1. « Toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. » Et bien sûr, ça c'est une prophétie messianique annonçant l'incarnation de Jésus dans la ville de Bethléem Ephrata. Ce qui est intéressant, il y avait plusieurs villes qui s'appelaient Bethléem, mais la seule, et celle-là, c'est bien celle-là où est né Jésus, c'était Bethléem Ephrata. Et ça c'est prophétisé donc près de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Encore une fois, les prophéties de la Bible, c'est quelque chose d'unique qui devrait vous donner une entière confiance dans la parole de Dieu comme étant la vérité et vous permettre de parler aux autres de cette vérité. Un autre verset bien célèbre, c'est Michée 6, 8. Un verset clé. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout un programme fait de simplicité, d'amour de Dieu, de respect de la loi, d'humilité. Quel beau programme. Michée 6, 8. Il y a un chant en anglais, il doit en exister en français qu'on devrait chanter pour connaître ça. Toujours l'idée aussi du procès de Dieu avec son peuple qui est rapporté par le prophète, chapitre 6 verset 1. Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, entre en procès avec les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, immuable fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut contester avec Israël. C'est fou que même avec sa création, Dieu fait appel à des procès, donc à des règles de déontologie ou de. Non seulement il est patient, mais il est prêt à jouer de façon juste, bien entendu. Il n'est pas là à accabler, il leur dit si vous pouvez vous expliquer, on va vous écouter. Le prophète suivant, c'est Nahum. Et lui, c'est, dont le nom veut dire consolation. Il réconforte en quelque sorte Juda en montrant que les nations comme la Syrie, Ninive, et vont être punis par Dieu. C'est donc, il y a des versets très forts sur la colère de Dieu qu'il est bon de rappeler lorsque on a trop tendance à se faire un Dieu à son goût, un Dieu d'amour et de grâce qui tolère tout. J'aimerais juste qu'on lise quelques versets là. Menace sur Ninive, livre de la vision de Nahum, l'Elkoshite. Verset 2 du chapitre 1. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Bazan et le Carmel dépérissent, la fleur du Liban dépérit, il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, il brise les rochers. Et puis tout de suite après, verset 7, l'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira totalement cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Donc on peut voir la fureur de Dieu contre ses ennemis et en même temps l'amour, la protection pour ceux qui viennent à lui et qui le recherchent. Verset 1 du chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire remplie de mensonges, pleine de violence. Bruit du fouet, bruit fracassant des roues, les chevaux galopent, les chars bondissent, assauts de cavalerie, flamboiement d'épées, éclats de lances, une multitude de blessés, une masse de cadavres, des morts à l'infini, on trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse en sortilège, elle qui vendait des nations par ses prostitutions et des tribus par ses sortilèges. Me voici contre toi. Donc cette colère contre Ninive, Très graphiquement décrite. Lui, on le situe donc à peu près en 650 avant Jésus-Christ. Habacuc, on a dit que c'était quelqu'un qui était un peu perdu. Pourquoi ? Parce que il ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait utiliser un peuple aussi cruel que les Babyloniens, ce qui sont appelés ici les Chaldéens. Verset 6 du chapitre 1, « Voici, je fais surgir les Chaldéens pour corriger le peuple de Juda. » Et il a cette question, d'abord, c'est pourquoi est-ce que le juste se fait, plutôt pourquoi le méchant triomphe-t-il du juste ? Ça, c'est une question qui est dans tous les cœurs de chaque homme. Et on a tendance à dire c'est le crime paie, c'est les méchants qui triomphent. Il dit c'est pourquoi un droit perverti s'établit. Et souvent, dans notre monde encore aujourd'hui, malgré des essais de justice et de démocratie, on voit que ce sont les faibles, ce sont les innocents, bien souvent, qui sont condamnés, alors que les puissants qui magouillent, qui trichent, qui font les lois, qui les déforment, peuvent continuer à être protégés par l'immunité, on ne vise personne, et continuer à apparemment prospérer. Et ça, cette question, Habacuc la pose à Dieu. Il va aussi dire qu'en fait Dieu va triompher. La première partie, les deux premiers chapitres, c'est cette fois troublé qui ne comprend pas pourquoi le méchant triomphe-t-il du juste. Dieu répond qu'il va susciter les Babyloniens. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit rien quand le méchant gagne? Et Dieu dit qu'en fait, les gens ne perdent rien pour attendre. Ça, c'est la réponse des versets 2 à 20. Nous, souvent, nous voyons les choses avec une optique assez court terme. Dieu, lui, a toute l'éternité pour mettre les choses en ordre. Mais il annonce à Habacuc qu'en fait, il va y avoir des malheurs qui vont tomber sur Babylone. Et là, à partir du chapitre 3, c'est d'abord une complainte, et puis après, c'est un hymne à la grandeur de Dieu, à partir du chapitre du verset 3, du chapitre 3. C'est ce qu'on appelle un psaume, hein. C'est un chant, un texte à chanter. Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, la voilà à sa force cachée. Devant lui marche la peste, la fièvre sort sur ses pas, il se dresse et prend la mesure de la terre. Il regarde et fait sursauter les nations. C'est typiquement le schéma des psaumes où le psalmiste commence à s'inquiéter et démoralisé. Il est déprimé parce qu'il voit le mal triompher, il voit les méchants impunis, il voit les justes persécutés. Souvent il s'attriste, s'apitoie sur son propre sort, et puis Dieu lui ramène à la mémoire sa fidélité dans le passé. Et de là, il peut rebondir dans le futur et dire, mais c'est vrai, après tout, Dieu m'a aidé. Et c'est aussi, ça doit être aussi notre démarche lorsqu'on est attaqué par l'ennemi, lorsqu'on est démoralisé, lorsqu'on a peur. C'est de revenir à tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, dans la vie de nos communautés, de son Église, pour dire qu'en fait, il est toujours là et qu'on peut avoir confiance en lui. Le verset le plus célèbre de Habacuc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous le connaissez ? On l'a vu dans Romains 1, 17. C'est Habacuc 2, 4. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra pas sa foi, c'est ce qui a suscité la réforme avec Luther. On dit en fait que ce simple texte est commenté 3 fois dans le Nouveau Testament. Il est commenté dans Romains 1,17, c'est la justification par la foi que Paul explique. Le juste vivra par la foi. Romains parle du juste. Comment, qu'est-ce que c'est qu'être juste? Comment le devenir? Vivra, ça c'est commenté dans Galates. Galates est un livre, une lettre de Paul où il nous donne beaucoup d'explications pratiques pour vivre la vie de chrétien. Et Galates 3,11, il est dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela était évident, puisque il est dit le juste vivra par la foi. Donc, Paul cite encore ce verset d'Habacuc 2,4. Et puis dans Hébreux 10,38, alors on dit, on n'est pas sûr que ce soit Paul l'auteur, mais ce parallèle tendrait peut-être à montrer que Paul a fait son commentaire en trois lettres. Mais il y a d'autres questions sur Hébreux, on ne connaît pas vraiment l'auteur. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10,38. Et là donc, Hébreux s'intéresse à la foi. Avec le chapitre 11, le grand chapitre de la foi. C'est donc là que, encore une fois, dans tous ces petits prophètes, il y a des vérités qui ont été reprises dans le Nouveau Testament, qui ont révolutionné la planète, comme cette chose qu'on n'est pas déclaré acceptable par Dieu par nos mérites, mais simplement en mettant la foi en ce qu'il a fait déjà pour nous. Lui a vécu une vie parfaite en la personne de Jésus-Christ. Sophonie, c'est moins connu, parle aussi du jour, il avertit Jérusalem et Juda, il parle toujours du jour de l'Éternel. Il dit, certains voient là une prophétie du retour de la langue hébraïque, de l'hébreu. Verset 9 du chapitre 3, « Je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. » Ça, c'est une traduction qui, des fois, est... Alors, on peut penser que rendre purs les lèvres, ça veut dire simplement purifier le cœur, de façon à ce que les lèvres disent des paroles belles. Mais certains pensent que c'est « Je donnerai un langage pur » aux lèvres des peuples, donc que l'hébreu serait reparlé, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc le jour de l'Éternel de l'Ancien Testament dont on a parlé, souvent on en reparle dans le Nouveau Testament comme le jour du Seigneur. Il y a une vision messianique aussi, dans ses promesses du chapitre 2. On doit... Verset clé, c'est peut-être chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre qui exécutez son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Un très beau passage, c'est aussi Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Alors là, il s'adresse encore une fois à Jérusalem, à sa ville, à la ville de son peuple. Et quelque part, il est encourageant de considérer que ce verset peut s'appliquer à chaque enfant de Dieu. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Et d'imaginer que Dieu se réjouit de moi, malgré tous mes péchés, malgré toutes ces choses, c'est une chose absolument nécessaire pour marcher avec Dieu. Avoir la confiance que Dieu nous aime et qu'il va plus loin, il se réjouit, il pense à Nina et dit « Ah Nina, ah, elle est formidable !» Par la puissance de Jésus dans sa vie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Des fois, on aimerait qu'il ne garde pas ce silence, mais c'est comme il est une certaine pudeur, Dieu ne... Mais elle est là, cet amour est là. Agé, lui, c'est un des prophètes d'après l'exil. Et ça, vous vous souvenez que Cyrus avait permis aux Juifs de rentrer de Babylone, reconstruire le temple à Jérusalem. Et puis il y avait un moment où ils s'étaient arrêtés parce qu'il y avait eu une opposition. Pendant 12 ans, ils avaient laissé tomber le travail. Et Agé était là pour les encourager, de la même façon que Zacharie aussi les a encouragés à reprendre le travail. Et le thème, c'est donc la reconstruction du temple. Il y a aussi une dimension messianique dans cet auteur. Donc lui, c'est encore une fois, il encourage à reconstruire le temple. Zacharie, c'est déjà pas il n'est pas si petit que ça comme prophète au niveau du volume. Il y a 14 chapitres. Là aussi, il y a beaucoup d'images. Le nom de Zacharie, ça veut dire « l'Éternel s'est souvenu ». Et c'est quelque part, c'est après les 70 ans de captivité de Juda en Babylone, Dieu s'est souvenu de son peuple et l'a ramené à Jérusalem. Un verset célèbre, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel, le gouverneur qui commander la reconstruction du temple, et eux étaient complètement démoralisés. Le temple de Jérusalem gisait en ruine après la destruction par Babylone. Il allait y avoir des monceaux de pierres, et comment recommencer? Et nous aussi dans nos vies, des fois on peut être accablé par les projets, par les tâches qui sont devant nous, mais encore une fois, c'est par l'Esprit de Dieu que les choses s'accomplissent, et pas par nos forces, par notre énergie, par nos ressources, nos relations. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on peut accomplir quelque chose pour lui. Qui es-tu, grande montagne? C'était cette montagne de pierres détruites. Devant Zorobabel, tu seras aplani, il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Il y a beaucoup d'images dans Zacharie. Il y a plusieurs apparitions. Jésus-Christ apparaît comme sous plusieurs images. Il est le germe, celui qui va pousser, le serviteur de l'Éternel, la pierre aux sept yeux, le roi sacrificateur, le roi humble monté sur un âne. Il est l'esclave vendu pour 30 pièces d'argent. Il est le berger qui va être frappé, le fils unique transpercé. Il va être aussi le juge des nations qui va revenir sur la montagne des Oliviers. Et il est le roi de toute la terre. Il y a des visions. Mais là aussi, c'est à la fois la vision d'un Messie, d'un Messie, d'un serviteur souffrant et d'un Messie triomphant qui est présenté dans Zacharie. On sait que les Juifs à l'époque, et plus tard, même à l'époque de Jésus, avaient du mal à faire la synthèse. Il voulait entendre parler du Messie qui devait souffrir, il voulait simplement entendre parler du Messie qui allait triompher. Dans leur esprit, ça voulait dire les libérer de l'occupation romaine sous Jésus. Et on a du mal avec le recul à ne pas comprendre comment ils ne voyaient pas ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on nous donne deux nouvelles, la mauvaise ou la meilleure d'abord, souvent on retient la bonne nouvelle. Et le peuple d'Israël faisait la même chose. Ils n'avaient pas le bénéfice, comme nous, de regarder en arrière pour voir l'histoire, voir le sacrifice de Jésus sur la croix, sa résurrection et la promesse de son retour. Mais tout ça, c'est déjà dans Zacharie. Il y a aussi énormément d'informations qui sont reprises dans l'Apocalypse. Et puis finalement, il y a le prophète Malachie. Lui, il essaye de rappeler au peuple les vraies priorités. Après le retour d'exil, les Juifs étaient retombés dans la facilité. Et notamment au niveau de leur vie devant Dieu, ils s'étaient laissés aller dans plusieurs domaines. Les prêtres reniaient et profanaient le nom de Dieu. Dieu fait dire par Malachie qu'en fait le peuple le trompe et le vole. Et c'est l'occasion justement de rappeler que Dieu attend que son peuple donne une dîme, une offrande sur ce que Dieu donne. Pas parce que Dieu a besoin de ses ressources, mais c'est pour montrer, en donnant un dixième, on montre que tout appartient vraiment à Dieu. Alors la dîme, c'était le dixième. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de base mathématique. Mais pourquoi pas envisager justement d'apporter à la maison du trésor toute la dîme, verset 10, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Et là, c'est vraiment, Dieu nous demande de le mettre au défi. Il est dit dans le Lévitique ou le Deutéronome, tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne poseras pas des défis à ton Dieu. Mais là, Dieu lui-même dit, soyez fidèles, donnez-moi la dîme, le dixième de vos ressources, et moi je vous défie vous allez voir comment je vais ouvrir les écluses du ciel pour vous bénir matériellement, spirituellement. Et ça, c'est un principe qui n'a pas changé. Le principe de la générosité de l'enfant de Dieu, qui est un signe de confiance dans les promesses du Seigneur. Et on peut vraiment lui faire confiance. Et pour ceux qui peut-être n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer ces offrandes régulièrement pour la vie de l'Église, pour les missions, c'est quelque chose de formidable d'essayer et de voir que même si on n'a pas beaucoup de ressources, si on fait ce premier geste, de voir comment Dieu va répondre aux besoins, au-delà de ce qu'on espère, de ce qu'on pense. Alors, je ne suis pas là pour vous dire de risquer tout votre salaire. Non, la question n'est pas là, mais souvent on dit, il ne me reste plus rien pour donner au Seigneur, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, j'ai encore un arriéré. En fait, si on commence par ça, c'est un principe biblique qu'il est merveilleux de vérifier en pratique. Et quand j'ai commencé à le découvrir, j'ai été absolument stupéfait de voir que les promesses de Dieu, c'est oui et c'est non, sont pour toujours. Et qu'en fait, si on lui fait confiance, il nous met au défi de le trouver en défaut. Voilà donc ce dernier livre. Se termine par une très belle promesse aussi de « Je vous enverrai moi-même le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Vous vous souvenez, Jésus demandait qui était, ou plutôt on se demandait qui était Jean-Baptiste. Certains disaient que c'était le prophète Élie. Il y avait certaines ressemblances. Mais avant la venue du jour de l'Éternel, donc le jour du jugement, il va y avoir cette action où Dieu va intervenir pour restaurer les familles et de protéger le pays, donc Israël, mais aussi tous ses enfants. Voilà, on a fait très vite pour couvrir ces 12 prophètes. Et ce que j'espère, c'est que ça vous donne envie de les relire. Ce sont des passages intéressants parce qu'ils ne sont pas si longs que quand on commence l'étude d'Ésaïe. 66 chapitres assez longs, c'est un gros morceau. Mais là, dans vos dévotions, le matin ou le soir, lisez un chapitre. Si vous avez un commentaire dans votre Bible ou dans un livre annexe, c'est vraiment une partie de la Bible qui est injustement négligée, parce que c'est très riche, c'est très beau et c'est la vérité aussi. Est-ce qu'il y a des questions là pour quelques minutes? Alors là, on a été très vite hein, sur Zacharie, on pourrait passer des mois. Oui. Oui. Non, alors. Alors, ça fait partie de ce que les protestants appellent les livres apocryphes, qui ont en fait, ils n'étaient pas à l'origine dans le canon. Le canon, on en a parlé une leçon 2 ou 3, si jamais tu es intéressé de prendre d'écouter la cassette. On expliquait que dans l'Ancien Testament, ce qui permettait de reconnaître qu'un livre faisait partie du canon, qu'il était inspiré de Dieu, c'était l'autorité prophétique. Il fallait que ce soit un prophète ou quelqu'un qui était en contact proche avec un prophète. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt l'autorité apostolique. Il fallait que ce soit un apôtre, soit quelqu'un qui était auprès d'un apôtre, comme Luc était auprès de Pierre. Et donc il y avait ces autorités qui étaient reconnues de fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des tas d'écrits qui s'étaient ajoutés à ces écrits. Et l'auteur de la Vulgate, Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, et qui a été à la base un peu des versions catholiques de la Bible, lui-même disait qu'il avait cité ces livres comme les Maccabées ou Tobie ou d'autres, comme ne faisant pas partie du canon. Il les avait mis quand même parce qu'ils étaient assez connus et assez populaires. Ils sont intéressants parce qu'ils donnent des informations historiques, notamment le livre des Maccabées qui explique la révolte et qui parle un peu de cette période entre les deux testaments. Mais c'est l'Église catholique qui, en réaction à la réforme, au concile de Trente, a décidé d'incorporer officiellement maintenant ces livres qui étaient toujours un peu apocryphes, un peu suspects, qui étaient intéressants comme élément d'information, d'histoire, mais qui, même par les premiers pères de l'Église, n'étaient pas reconnus comme inspirés. Et ça, c'était plus une réaction politique pour dire, tiens, on va mettre cela pour se différencier d'eux. Et donc même aujourd'hui, les catholiques, ils figurent dans leur Bible, mais c'est rare qu'on les cite comme pour inspirer. Il y a peu de sermons sur les Maccabées, où c'est plutôt des livres qu'on laisse de côté, parce qu'en fait, historiquement, ils n'ont jamais été considérés comme inspirés par l'Esprit de Dieu. Mais il y a des tas de livres, même de l'historien Joseph, qui nous donne beaucoup d'informations historiques, qui nous permettent de mieux comprendre la Bible. Donc ils ne sont pas considérés, même par les catholiques, comme des prophètes. Hein. Ils sont classés comme des apocryphes. Parce que les Maccabées, c'est la période historique, justement, oui, de Antioche Épiphane, entre lorsque c'est la fameuse bataille de Massada, c'est décrit dans ces... Donc c'est pas des livres dénués d'intérêt, mais c'est pas considéré comme des livres inspirés. Autre chose ? Ok. On prie ? Seigneur, on est quelque part presque mal à l'aise de survoler aussi rapidement ta parole. Mais Seigneur, donne-nous davantage envie de la connaître, de pouvoir faire des rapprochements entre les livres, entre les époques, entre les prophètes. Parce que rien n'est au hasard dans ta parole, Seigneur, tu l'as révélée par ton Esprit Saint à des personnes qui ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient, ils n'essayaient pas de comprendre, mais avec le passage du temps, Seigneur, nous pouvons mettre en relation des prophéties, des accomplissements, de voir des accomplissements qui restent à confirmer ou à arriver. Et Seigneur, nous voyons les mêmes thèmes, Seigneur, dans toute ta parole. Tu aimes les hommes, Seigneur. Tu nous donnes la liberté d'aller vers toi ou de te rejeter. Et lorsque nous nous écartons de toi, Seigneur, souvent tu nous laisses en récolter les conséquences pour que nous retrouvions à notre bon sens, que nous revenions à toi. Seigneur, aide-nous à comprendre rapidement que te suivre, c'est toujours le meilleur pari, c'est toujours la bonne chose à faire. Aide-nous à partager ta parole, Seigneur. Merci pour l'avoir préservée, l'avoir inspiré, Seigneur, et nous permettre maintenant de la décoder, de la recouvrir, de la découvrir et d'en être marqué. Merci pour toutes ces promesses. Merci que le juste vivra par la foi. Merci que tu te réjouis, tu fais de nous un objet de réjouissance, Seigneur. Merci de ce que, si la correction vient, Seigneur, c'est parce que tu veux qu'il y ait la bénédiction qui suive et que ton plan, c'est vraiment de nous bénir et passer l'éternité avec toi. Encourage chaque personne ici présente, Seigneur. On pense à ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en voyage. On veut te remettre ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la maladie, ou même qui se sentent déprimés, inquiets, Seigneur. Fortifie ton peuple et sois glorifié dans nos vies. Amen. Amen.